BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque week-end, chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et au sommaire, eh bien, pour ceux qui aiment les nombres symboliques de ce 222e numéro, nous allons cette semaine encore beaucoup parler de la vitalité des territoires français. Deux invités sont en duplex aujourd'hui. Tout d'abord, Gisèle Rossa Mignot par téléphone, directrice du réseau de la Banque des Territoires, pour nous parler des missions de la Caisse des dépôts en matière de soutien et d'accompagnement des projets des territoires ou des collectivités. Et pour illustrer bien ces missions et ces projets très concrets, nous serons en duplex avec François-Xavier Priolo, c'est le maire de la commune de Louviers dans l'Eure, et nous évoquerons ensemble plusieurs projets cofinancés par la Banque des Territoires en faveur des commerces et des transports de la ville. Au sommaire également de cette émission, le projet Airbus des batteries qui vise à faire de l'Europe un poids lourd des batteries électriques pour les voitures et qui va également créer de l'emploi dans les territoires. En France notamment, la co-entreprise chargée de développer le projet va s'installer en Gironde, en Charente et dans le Pas-de-Calais. Mais tout d'abord, eh bien, on va revenir sur l'un des événements business de la semaine. C'est l'annonce lundi dernier, après plusieurs mois d'une bataille homérique, du rachat de Suez par Veolia. On vous l'a raconté largement sur BFM Business. Des négociations très âpres, très tendues ont eu lieu jusqu'à très tard dimanche soir. Au final, c'est donc un nouveau champion français de l'eau et des déchets qui va voir le jour d'ici quelques mois. Il devrait peser 37 milliards d'euros de chiffre d'affaires, grosso modo à Veolia l'international. Et Suez, lui, va se recentrer notamment sur le marché français. Antoine Frérot, qui est le PDG de Veolia, était l'invité de Christophe Jacubizine dès mardi matin pour commenter cet accord.
Il n'y a que des gagnants dans ce projet et dans l'accord qui a été passé dimanche soir, tout d'abord. Suez, effectivement, va continuer, va être unifié en France et va être stabilisé avec un actionnariat de long terme et va pouvoir, avec près de 7 milliards de chiffre d'affaires, c'est-à-dire numéro 3 ou 4 mondial.
Oui, mais sur un marché compliqué, la France, Bertrand Camus, son directeur général, s'est beaucoup battu pour avoir des activités qui lui permettaient de croître. Par exemple, les États-Unis, vous avez tout refusé.
Oui, parce que ce projet industriel, il a une cohérence.
Le vôtre.
Le mien. Et pour construire ce grand champion, il est important que des activités rejoignent ce projet. Cela dit, Suez désormais est unifié en France. Il est stabilisé sur le long terme, avec un actionnariat long, très long, puisque c'est ce que nous avons convenu avec Suez. Et puis, le marché français, vous savez, c'est le berceau des deux groupes. C'est à partir de ce marché que nous avons construit ces deux entreprises et maintenant ce grand champion. Il y a encore 20 ans, nos deux groupes étaient très peu développés à l'international. Donc, ce n'est pas du tout un marché trop mature. C'est un marché très actif, très dynamique et qui va permettre encore d'inventer en France des tas de choses pour réussir la transformation écologique. Il y a bien sûr des activités qu'on connaît déjà, qu'on connaît tous, la distribution d'eau, l'assainissement des eaux usées, la collecte et le traitement des déchets ménagers. Ouais. Mais il y a toutes les solutions nouvelles, celles que nous maîtrisons déjà, mais qui sont insuffisamment développées pour gagner le pari écologique. Le recyclage des plastiques, et là, Veolia et Suez, ce sont deux types de résines plastiques que nous savons réutiliser, que nous savons recycler, qui sont différentes. C'est là que 1 plus 1 fait 2 fois 2, 2 fois plus de solutions pour 2 fois plus de clients. Il y a également le problème de la qualité de l'air. Comment garantir la qualité de l'air dans tous les bâtiments qui reçoivent du public? Le problème du recyclage des eaux usées, le problème de la capture du carbone, le problème du recyclage des batteries électriques, le problème du lien entre environnement, agriculture et alimentation. Comment nourrir dans 20 ans 10 milliards de personnes sur la Terre avec moins d'eau, moins d'énergie et moins de sol? Voilà l'enjeu de ce projet. Et comme le temps de l'affrontement est terminé, le temps du rapprochement et de la construction commence.
Alors à l'instant, Antoine Frérot a évoqué le sujet du recyclage des batteries électriques. Voilà donc un sujet, les batteries électriques, où l'Europe veut essayer de rattraper son retard, notamment vis-à-vis de la Chine. Ce projet, on le surnomme l'Airbus des batteries. Le vrai nom de cette co-entreprise, c'est ACC Automotive Sales Company. Et le tout est porté à 50-50 par une filiale de Total et par Stellantis. Vous le savez, c'est le nouveau nom du groupe PSA Fiat Chrysler. Ce projet industriel va se concrétiser à la fois en Allemagne et en France. En France, où il va y avoir trois étapes. En fin d'année, une usine à Douvrin dans le Pas-de-Calais et d'ici là, une autre usine pilote près d'Angoulême ainsi qu'un centre de recherche situé au Bouscat en Gironde. Yann Vincent, qui est le directeur général d'ACC, était notre invité il y a quelques jours.
Notre centre de recherche va démarrer dans les jours qui viennent et là on sera en capacité de faire des prototypes de n'importe quelle cellule, de tester pour n'importe quel client. Et puis en même temps, nous sommes en train de construire notre usine pilote à côté d'Angoulême.
Ouais.
Qui sera opérationnel à la fin de cette année, qui nous permettra de valider tous les process de fabrication pour les Gigafactory.
Et ensuite, troisième étape, donc cette usine de Gigafactory de Douvrin, dans le Pas-de-Calais, sur un des sites historiques thermiques de Stellantis.
Nous savons tous que le moteur thermique est appelé à disparaître.
Bien sûr.
Et face à cette disparition, Stellantis a organisé cette transition et fait en sorte qu'il y ait une activité qui vienne se substituer, qui est une activité du futur. Et donc, nous apportons l'industrie du futur dans le Pas-de-Calais, à Douvrin en particulier.
C'est une révolution qui va extrêmement vite, ce qui est en train de se passer en ce moment.
Oui, juste pour vous donner quelques chiffres, l'année dernière, en Europe, le véhicule électrique a dû représenter 5-6% du marché total européen. Les constructeurs aujourd'hui prévoient 70% en 2030.
70%.
Donc une énorme accélération et effectivement du coup un besoin de fabrication de batteries qui est colossal.
Yann Vincent, est-ce qu'on va y arriver? On sait le retard qu'on a pris par rapport à la Chine, hein. Peut-être qu'on prend de l'avance par rapport aux Américains, mais ça c'est un autre sujet. Est-ce qu'on va arriver à fournir des batteries made in Europe suffisamment pour cette révolution qui est en marche?
J'en suis absolument convaincu.
C'est vrai?
J'en suis absolument convaincu. Parce que fondamentalement, on a deux partenaires. Saft, qui produit des batteries depuis des dizaines d'années, qui a l'expérience de la batterie lithium-ion, qui a l'expérience de clients qui sont extrêmement exigeants en termes de qualité. Et puis, on a Stellantis, qui a l'expérience de la production de masse.
La première batterie non prototypée, mais de série qui sort, c'est quand?
Fin 2023.
Voilà donc pour ce projet à la fois industriel et de recherche dans les départements. Donc on les a cités, de la Gironde, de la Charente et du Pas-de-Calais. Et on va continuer à beaucoup parler de nos territoires avec nos deux invités que je salue. Tout d'abord par téléphone, Gisèle Rossa-Mignot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du réseau de la Banque des Territoires qui fait partie du groupe Caisse des Dépôts. On en parle dans quelques instants. Et également donc en duplex de sa commune de Louviers dans l'Eure, monsieur le maire, donc de la commune, François-Xavier Priolo. Bonjour monsieur le maire. On parlera donc avec vous dans quelques instants de projets très concrets soutenus par la Banque des Territoires. On va donc commencer par faire un petit peu un zoom sur cette Banque des Territoires avec vous, Gisèle Rossa-Mignot. Création en 2018, alors ce n'est pas une filiale de la Caisse des dépôts, c'est bel et bien une des missions principales de la Caisse, avec une véritable mission d'intérêt général qui vous est donc attribuée à la Banque des Territoires. Racontez-nous cela.
Et effectivement, la Banque des Territoires, c'est un bras territorial, si je puis dire, de la Caisse des dépôts, qui, sur les territoires, finance des projets qui touchent finalement au quotidien des Français, sur des territoires, je disais, avec des projets qui sont impulsés, qui sont proposés par les élus, hein, par les maires, bien sûr, et je salue chaleureusement monsieur le maire de Louviers, par des intercommunalités, par des départements, des régions. Et puis, on est là aussi pour soutenir le pays dans un moment bien difficile avec un plan de relance de l'économie française de plus de 26 milliards d'euros de fonds propres de la Caisse des dépôts pour relancer l'économie française sur les territoires. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a deux métiers essentiellement. Le premier métier, c'est un métier de financement. On prête de l'argent sur du très long terme ou du long terme, hein, aux collectivités, comme je disais, sur des projets de développement. Et puis, on investit en fonds propres, notamment dans des entreprises publiques locales, pour accélérer les projets. Et là, c'est pour répondre à des besoins immédiats et aussi pour penser l'avenir au service des citoyens. Et je peux prendre peut-être deux exemples, parce que
allez-y.
Je pense que des exemples parlent mieux. Le commerce, par exemple. Le commerce, depuis plusieurs années, et puis en accélération depuis la crise sanitaire que nous vivons, subit vraiment des effets extrêmement puissants en termes de vacances, en termes de fermeture de pas de porte. Et donc, la Banque des Territoires a décidé de mettre 1 milliard pour essayer d'aider le commerce, avec à la fois des mesures d'urgence, et monsieur le maire pourra sans doute en parler.
On en parlera avec lui dans quelques instants, oui.
C'est par exemple financer un manager de centre-ville, c'est structurer des frontières pour racheter le commerce, les transformer et les remettre sur le marché. Donc c'est 1 milliard au service du commerce.
Et puis autre priorité.
L'autre priorité, la transition écologique et énergétique, bien sûr. Et là, c'est 20 milliards portés par la Banque des Territoires pour la rénovation énergétique des bâtiments, pour le développement des énergies renouvelables et pour, évidemment, la mobilité verte dont M. le maire pourra sans doute parler.
On va parler de ces deux thématiques dans quelques instants. Juste quelques chiffres. Vous nous parliez de prêts et d'investissements pour l'année 2020. Quels sont les montants que vous injectez dans l'économie et quelles sont les perspectives pour l'année en cours et l'année 2022?
Alors, je le disais, sur le plan de relance, c'est 26 milliards sur la durée du plan de relance et c'est 22 milliards en 2 ans. Donc c'est 10 milliards pour 2021 et 10 milliards pour 2022, auxquels il faut ajouter, je le disais tout à l'heure, le financement par des prêts sur le fonds d'épargne des Français. C'est l'argent des Français qui est mis au travail. Et là, c'est 70 milliards de prêts de fonds d'épargne. Et sur le plan de relance, on est déjà à l'année 2020 à 8 milliards.
Donc on va très très vite. Très bien. On reparlera de toutes les missions de la Banque des Territoires dans quelques instants, mais donc parmi celles que vous avez citées, c'est la redynamisation des commerces. François-Xavier Priolo, donc maire de Louviers, le centre-ville de Louviers à l'heure actuelle, même avant la crise épidémique qui nous touche depuis un an, quel est son état et surtout quels sont les besoins que vous avez mis en commun avec la Banque des Territoires pour redynamiser votre centre-ville?
Alors pour continuer sa dynamisation plus que pour le redynamiser, parce que c'est un centre-ville qui est dynamique et je crois qu'aujourd'hui une des forces des villes moyennes, oubliez, c'est une ville de 20 000 habitants, c'est justement de proposer un éventail de commerces facile d'accès à la population. Et ce que fait la Banque des Territoires, c'est permettre de mettre de l'humain dans cette stratégie en nous aidant à recruter un manager de commerce de centre-ville. Ça, c'est extrêmement important pour pouvoir faire du conseil directement auprès des commerçants.
Et ça veut dire, qui va les voir, qui les guide un peu dans leur stratégie. C'est quoi, de manière concrète, le métier, les missions d'un manager de commerce qui concerne votre ville, mais de très nombreuses autres villes en France?
Le métier du manager de commerce, c'est de faire tout ce pourquoi le commerçant n'a pas voulu créer son activité. Un commerçant, il est là pour faire du commerce. En revanche, quand il veut refaire sa devanture, quand il veut proposer des animations commerçantes, quand il veut développer sa stratégie numérique, là, il a besoin d'un conseil et il a besoin d'aller vite. Et on a vu que la crise du Covid, elle avait montré à quel point il faut faire du sur-mesure. Et sur une ville de 20 000 habitants, on a plus de 200 commerces à Louviers. Ça permet véritablement d'apporter une solution concrète pour chaque problème particulier de chaque commerçant. On n'est pas dans des mesures générales où on applique à l'aveugle les mêmes solutions. Pour chaque commerce, il faut une solution particulière et c'est ça la valeur ajoutée de ce manager de commerce de centre-ville.
Et ce poste, il est en cours de création, il est déjà créé et en termes de financement, c'est un cofinancement entre votre commune et la Banque des Territoires?
Alors, la personne a été embauchée à la fin de l'année 2020 et en effet, c'est un financement à hauteur de 20 000 euros par an sur le poste. Et donc, très clairement, il y a un effet de levier. S'il n'y avait pas eu ce financement, nous n'aurions pas procédé au recrutement. Et on en mesure vraiment les effets parce que là, on prépare aussi la réouverture des restaurants et des bars. Et il est évident que pour préparer ça avec les commerçants, ce manager, il a un rôle essentiel. Et puis, il se projette dans l'avenir et on est là aussi pour identifier les locaux vacants, faire en sorte de pouvoir faire du qualitatif. Et ça, c'est extrêmement important. On n'est pas dans de la gestion, mais vraiment dans un projet de ville, dans un projet commerçant pour une ville moyenne.
Et un des locaux vacants, d'ailleurs, si on reste dans votre centre-ville, je crois que c'est une ancienne pharmacie qui va être transformée en un tiers-lieu. Donc, il y a différents endroits qui vont... Alors, on va voir la photo de cette pharmacie dans quelques instants sur notre antenne. Mais donc, parlez-nous très concrètement, encore une fois, de ces opérations, de ces initiatives via cette pharmacie qui va être transformée, ancienne pharmacie.
Alors, c'est une ancienne pharmacie qui a quitté une rue pour aller dans une autre rue de la ville. Et là aussi, on est dans des projets où on souhaite innover. On souhaite se projeter sur des nouveaux usages et on souhaite aussi faire en sorte de redonner vie à des locaux sur des différents. Donc, c'est un tiers-lieu qu'on va appeler la fabrique des possibles. La Banque des Territoires a financé une partie de l'étude d'opportunité pour savoir s'il était opportun de rassembler dans un même lieu à la fois des activités commerciales, mais aussi des activités culturelles, du coworking. Bref, avoir dans un lieu en cœur de ville un endroit qui permette de réunir des publics qui n'ont pas l'habitude de se croiser, de se voir. Et ça, c'est quelque chose d'important aussi dans la conception qu'on peut se faire de la ville moyenne. Je dirais que la France a tout pour réussir, les villes ont tout pour réussir. Et ça, c'est important parce que la ville de demain, on le voit avec les aspirations des Français, c'est la ville facile. Et on est à la bonne échelle quand on est à 20 000 habitants pour faciliter, simplifier la ville et simplifier la vie. Mais ça, c'est important. Avec des lieux comme ça, on peut y arriver.
Mais vous êtes d'accord, monsieur le maire, que cette tendance pour les villes moyennes, elle est un petit peu récente. Elle a été amplifiée par la crise que l'on vient de vivre. Est-ce que, d'après vous, c'est un épiphénomène ou est-ce que ce retour à plus de proximité et à plus de villes moyennes, vous le rappeliez, votre ville compte environ 20 000 habitants, est-ce que c'est un phénomène plus durable, selon vous ?
Alors, en fait, elle est récente dans la mesure où ça a été révélé au grand public. Mais moi, je le voyais depuis 3-4 ans. Une vraie volonté des gens d'avoir accès facilement à tous les commerces. Et on a changé de logique. Oui, il y a 3-4 ans à peu près, le gouvernement a pris cette mesure d'action cœur de ville qui est importante, où il a vu qu'il fallait qu'on travaille tous ensemble dans la même direction. Et je pense que là, on est vraiment sur un phénomène dans la durée, de long terme, où il y a des changements de mode de vie. Et il faut les équipements du quotidien, il faut travailler sur les mobilités et leur complémentarité. La Banque des Territoires là, nous soutient financièrement sur des racks à vélo.
Absolument.
Sur les voilà. Bus parce que
parlez-nous de ce, voilà, de ce choisir, projet. Voilà. Donc ce sont des racks qui sont installés derrière, pour pas dire autre chose, derrière chaque bus, pour que les passagers mettent leur vélo et puissent le reprendre à l'issue du trajet en bus. Hein, c'est bien cela.
Vous l'avez dit, ils sont au cul du bus.
Je n'allais pas le dire.
et ce qui est intéressant, c'est que à la fois, vous prenez le train, à la sortie du train, vous attendez le bus, mais vous avez pris votre vélo dans le train, vous mettez votre vélo à l'arrière du bus, et après, vous récupérez le circuit des pistes cyclables. Et donc, c'est tout un écosystème des mobilités durables. Et on doit aussi, parce qu'on le fait en lien avec notre agglomération, l'agglomération Seine-Eure, c'est aussi travailler sur le lien entre le rural et l'urbain pour passer d'un village jusqu'à la ville et faire en sorte de développer des circuits cohérents de pistes cyclables. Donc c'est vraiment tout un ensemble. Et là, on construit cet écosystème de la ville et du territoire de demain. Et donc c'est des investissements pour les 20-30 prochaines années. Et c'est aussi important pour cela d'avoir des financements de longue durée.
Et vous
soit 30-40 ans.
Et vous le financez donc là pour ce qui est des projets sur les mobilités dont vous venez de parler, montant total de 116 000 euros. Et si j'ai bien compris, c'est également cofinancé avec la Banque des Territoires.
Tout à fait, c'est exactement ça, qui finance aussi des écoles, des choses d'investissement d'avenir et structurant pour une ville.
On va terminer notre entretien en retrouvant notre deuxième invité, Gisèle Rossa-Mignot. On a beaucoup parlé donc avec François-Xavier Priolo de ce besoin de cofinancement, de ce besoin à la fois d'accompagnement. C'est vraiment, pour faire un peu la synthèse de cet échange, cette coparticipation, c'est de travailler ensemble avec toutes vos directions régionales et vos antennes locales qui fait la force de la Banque des Territoires.
Mais écoutez, oui, et merci à Monsieur le maire de ces illustrations, parce que ça montre la réalité de terrain. En fait, c'est avec les équipes dans les territoires, puisque c'est environ 900 collaborateurs dans les territoires, que on accompagne ces projets. Hein. Vous avez beaucoup cité le programme Cœur de Ville. On accompagne les 222 villes de ce programme depuis la genèse. Hein. C'est 100 millions de crédits d'ingénierie. Je voudrais revenir sur ces éléments-là, parce que Monsieur le maire en a parlé. Je pense qu'avant tout projet à financer, il y a évidemment un besoin de réflexion, un besoin de structuration, et je pense que c'est important que la Banque des Territoires soit là aussi pour conseiller et peut-être d'aider les collectivités à la décision. Et donc, tout cet appui en ingénierie amont, il permet de faire mûrir finalement le projet. Et ensuite, évidemment, c'est à Monsieur le maire ou aux collectivités de décider du choix qui est fait. Mais ce temps de maturité est important. On l'a fait effectivement sur le tiers-lieu. On peut le faire évidemment sur bon nombre de projets. Avec d'ailleurs la commune de Louviers, on accompagne aussi en investissement, en financement, une résidence senior service ou encore la rénovation du groupe scolaire à Louviers.
Jules Ferry, voilà.
On voit bien qu'on touche le quotidien, on touche à l'éducation, au logement. C'est un axe très important pour la Banque des Territoires. Je ne sais pas si
tout le monde le sait,
mais un logement social sur quatre est financé par la Banque des Territoires.
Eh bien voilà, donc on voulait faire ce zoom et on l'a fait de manière, je pense, assez complète sur la Banque des Territoires, sur ses missions, sur ses actions. Merci beaucoup Gisèle Rossamino, donc directrice du réseau de la Banque des Territoires. Et merci beaucoup François-Xavier Priolo, maire de Louviers, pour ces témoignages dans la France à tout pour réussir. Dans le monde des affaires, eh bien cette semaine, il n'y a pas que le rachat des deux géants Veolia et Suez. Il y a eu aussi l'annonce de la fusion de deux gros éditeurs français de logiciels. D'un côté, le lyonnais Cegid et de l'autre, Talentsoft, créé il y a une quinzaine d'années en région parisienne. Talentsoft, la marque est très connue puisqu'elle concerne un salarié sur quatre en France, notamment via son logiciel pour faire passer les fameux entretiens annuels. Et bien, les deux sociétés vont donc fusionner avec à la clé des complémentarités diverses. C'est en tout cas la conviction de Jean-Stéphane Arcy, c'est le cofondateur de Talentsoft. Il était l'invité de François Sorel dans Tech & Co.
Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. C'est la naissance d'un champion français, d'origine française, mais vraiment qui est maintenant champion européen des logiciels SaaS d'entreprise, donc essentiellement RH et finance. Et voilà, on a besoin de la naissance de ces champions et c'était un de mes moteurs, un de mes rêves de pouvoir contribuer à faire une alternative aux Oracle, SAP et logiciels américains qui sont très présents dans les logiciels d'entreprise.
Alors, voilà, Cegid, qui est une pépite française du logiciel pour la transformation des entreprises, logiciel RH, bien sûr. Donc, on va se retrouver avec ces deux pépites qui vont, en fait, fusionner. En quelque
fusionner,
sorte.
Ça fait à peu près un pôle global de 3500 collaborateurs, à peu près 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, dédiés donc aux logiciels d'entreprise en mode SaaS. Et c'est la complémentarité, si vous voulez, qui a fait l'attrait de ce rapprochement. Géographique, puisque Talentsoft est fort en France, bien sûr, mais aussi en Europe du Nord, en Allemagne, dans les pays nordiques, au Benelux. Cegid, ils sont forts aussi en Europe du Sud, justement, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. Donc, la complémentarité géographique est superbe. Ensuite, complémentarité aussi des offres. Ça, c'est si important dans la tech de pas avoir de recouvrement. Et là, nous, on est avec Talentsoft, les champions, on va dire, de la gestion des talents. Eux sont les champions de la paye. Et donc, on a la possibilité de faire cette réunion, ce qu'on appelle le one-stop shop, où un client va pouvoir avoir l'ensemble de sa suite RH d'un même partenaire. C'est une belle nouvelle aussi, parce que ça fait un cloud RH souverain. Et c'est si important aujourd'hui de bien gérer les données des collaborateurs, les données personnelles des collaborateurs, des candidats avec le RGPD. C'est devenu assez fort dans l'agenda des décideurs et on a cette capacité maintenant d'offrir cela entièrement souverain avec une R&D en France, avec le support en France, avec toute l'expertise depuis la France.
Des talents, une expertise donc située en France pour Talentsoft, mais aussi de prestigieux actionnaires américains entrés au capital à l'occasion de différentes levées de fonds. On parle notamment de Goldman Sachs et de Francisco Partners. On va terminer sur un événement BFM Business qui revient pour sa 16e édition. C'est la BFM Academy. Depuis 2005, chaque année, nous organisons le plus grand concours de start-up en France. Cette année, les sélections vont avoir lieu à Paris, à Lyon, à Lille et à Niort. Laure Closier, la maîtresse de cérémonie de la BFM Academy, était dans Good Morning Business lundi dernier pour rappeler les critères pour postuler au concours. On l'écoute.
Il faut avoir moins de 3 ans d'existence, moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires réalisé. Vous vous inscrivez sur bfmacademy.fr. À partir d'aujourd'hui, vous avez jusqu'au 7 mai. On ira visiter Paris, évidemment, mais Lille, Niort et Lyon. Donc, en fonction de là où vous habitez, vous irez passer le casting dans l'une de ces villes. On vous attend.
Et qu'est-ce qu'on gagne ?
On gagne 150 000 euros de campagne publicitaire sur nos antennes.
C'est utile.
Mais c'est utile, mais c'est parce qu'on gagne de mieux la BFM CFM Academy, c'est une aventure, c'est un accompagnement, c'est un coaching. Il faut rentrer dans la BFM Academy, c'est ça le plus intéressant, plus que même le gain publicitaire, bon, qui est là évidemment, mais ce qu'il faut, c'est aussi participer.
Mais qu'est-ce qu'il faut pour gagner les atouts ?
Eh ben, il faut être un peu zinzin. C'est-à-dire que, en fait, quand même, pour lancer son entreprise aujourd'hui, en pleine crise sanitaire, en pleine crise économique, en pleine crise parfois personnelle et professionnelle, lancer son entreprise en 2021, c'est quand même, faut avoir un petit coup de folie. Et ouais, c'est ça qu'il faut pour gagner la BFM Academy, car il faut rien lâcher. Il faut être à fond. Il faut avoir envie, même quand on vous a dit non. C'est Xavier Niel qui disait ça. Plus on vous a dit non, en fait, plus que c'est bon signe. C'est ce genre de profil qu'on attend dans la BFM Academy.
Grande finale le 5 juillet. Hein.
Le 5 juillet, absolument. Grand oral. Là, il faudra défendre son entreprise face à des coachs qui attaquent. C'est l'espèce de grand oral, la cérémonie de fin, effectivement, le 5 juillet.
Et avant d'accéder à ce grand oral, à cette grande finale du 5 juillet, il faut donc bien sûr déposer sa candidature. Vous avez 3 semaines pour le faire jusqu'au vendredi 7 mai sur le site bfmacademy.fr. Ainsi s'achève ce 222e numéro de La France à tout pour réussir. Par définition, et si tout va bien, il y en aura un 223e le week-end prochain. D'ici là, bien sûr, très bon week-end et très belle semaine sur BFM Business.
BFM Business, La France à tout pour réussir.